Je vais essayer de vous présenter Rousseau, j'espère que je ne vais pas être trop long. Alors, je regarderai naturellement que le point de vue politique, pas son point de vue, disons, rêveur ou poétique. Rousseau, c'est un calviniste qui a abjuré, qui s'était fait catholique, puis il est rentré dans... Il a réintégré après l'église calviniste. Alors, pour commencer, quel est le point de départ de son œuvre politique? Son premier ouvrage politique, c'est le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il l'a écrit à la suite d'un sujet qui a été donné par l'Académie de Dijon. Or, nous regarderons d'un peu plus près ce discours avant d'aborder le contrat social. Une deuxième œuvre importante de Rousseau, c'est le contrat social, ou intitulé les principes de droit politique. Or, le contrat social n'est qu'une partie des institutions politiques que Rousseau voulait entreprendre, mais qu'il avait abandonnées. Alors, il y a d'autres œuvres encore politiques, les projets de constitution pour la Corse, les considérations sur le gouvernement de Pologne. Puis il y en a d'autres aussi, mais qui sont beaucoup moins importantes. Donc, alors d'abord, nous allons regarder le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, parce que c'est une des clés du contrat social. Et nous allons surtout parler donc de l'état de nature qui va permettre de comprendre le contrat social. Rousseau dit que de rechercher l'inégalité parmi les hommes, c'est un des problèmes philosophiques les plus difficiles à résoudre, car il présuppose une connaissance de l'homme. Donc Rousseau va essayer de connaître l'homme. Alors il dit que dans l'homme, il y a deux aspects. Il y a un état de nature, et puis il y a l'homme tel qu'il se trouve actuellement dans la société. Alors, qu'est-ce que cet état de nature? Alors, on voit que Hobbes a déjà parlé de l'état de nature, mais pour Hobbes, ce qui caractérise cet état, c'est la guerre. Alors que pour Rousseau, la guerre va être le fruit de la société. Or, qu'est-ce que l'état de nature? Tout d'abord, on ne peut pas savoir s'il a existé. Rousseau le prend comme une origine purement hypothétique de l'homme pour expliquer simplement l'état actuel de l'homme. Dans l'état de nature, il y a deux étapes. Alors, la première, c'est l'homme qui est seul, qui en fait n'a que son corps, qu'une vie végétative, sa vie sensible n'est encore que très peu développée, et tout le reste n'est que virtualité en lui. Il n'a pas encore la raison, et l'homme, il dit que l'homme n'est pas naturellement sociable, alors que pour Aristote, l'homme est par nature un animal politique. Alors cet état où l'homme vivait en animal semblait être le meilleur à l'homme. Il y avait un équilibre parfait entre l'homme et puis le milieu naturel, et l'homme n'avait aucune hostilité extérieure. Cependant, cet état naturel, cet état d'équilibre, va être troublé par le nombre croissant des hommes. Il va y avoir des langues, des communications entre les hommes qui vont être de plus en plus importantes. Et il y a des premières sociétés encore barbares qui vont commencer à se former. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans une deuxième étape de l'état de nature. L'homme qui vivait jusqu'alors dans un état d'innocence, eh bien par la naissance de la société, devient un homme moral, capable de bien et de mal, de vertu et de vice. Alors c'est pour ça que Rousseau dit que la société pervertit l'homme, mais aussi elle le moralise. La société est nécessaire à l'homme pour qu'elle puisse développer sa raison, son intelligence et toutes ses facultés. Donc, ce qui caractérise le second état de nature, si on peut dire, c'est la société encore barbare, injuste, sans loi, où il y a deux droits qui s'opposent et qui sont source de conflits. C'est le droit du plus fort qui veut s'imposer sur les autres et le droit de possession, c'est-à-dire les hommes qui veulent chercher à avoir un terrain pour vivre. Or, c'est pour ça que la société barbare est source de conflits, de guerre. Et alors, certains hommes vont vouloir sortir de cet état et vont de cet état de guerre et vont s'unir. Or là, on sort de l'état de nature pour entrer alors dans une société politique. Mais ces sociétés politiques vont devenir rapidement, alors ça c'est la deuxième partie du discours de l'inégalité, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Or donc ils vont former des sociétés politiques, mais qui vont vite devenir barbares, despotiques, tyranniques. Et alors le peuple va être esclave, et on retourne, si on peut dire, à une situation semblable à celle de l'état de nature, où il ne va rester que le droit du plus fort, puisque c'est le plus fort qui s'impose. Or les autres, ceux qui sont soumis, eh bien, dès qu'ils le pourront, devront se révolter. Et donc, disons, on a bouclé le cercle. Et alors, comment on va pouvoir se sortir de cet état de guerre et de cette inégalité entre les hommes? Alors, c'est là où nous voyons que le discours, c'est la clé du contrat social qui sera une réponse à cet état où l'homme est dans les fers. Dans le livre 1, du chapitre 1 du contrat social, Rousseau dit que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Alors, l'homme est né libre, car dans l'état de nature, l'homme était entièrement libre et ne subissait aucune contrainte. Il était seul, il y avait un état d'équilibre parfait. Et même Rousseau pense qu'il devait, sa principale préoccupation était le sommeil. Alors, Rousseau va essayer de rechercher à rendre à l'homme une liberté qu'il a perdue par la société, mais non pas en retournant, disons, au paradis terrestre, si on peut dire, mais en lui redonnant une liberté conventionnelle. Conventionnelle dans l'état actuel où l'homme vit, c'est-à-dire soumis à des lois dans une société. Et il va essayer de sauver l'homme. Et c'est le contrat social qui va permettre, disons, de sauver l'homme. Alors, si dans le discours, Rousseau recherche à expliquer l'état actuel de l'homme en posant un état de nature, dans le contrat social, Rousseau ne cherche plus à expliquer et justifier telle ou telle forme de gouvernement, mais va rechercher ce qui doit être. Il semble que ce soit une recherche purement théorique. Il veut essayer de rechercher les formes d'un bon gouvernement pour diriger la société en respectant l'état actuel de l'homme, tel qu'il vit dans la société, en respectant ses droits, pour essayer de maintenir la justice et tout en recherchant l'intérêt de la société afin qu'elle puisse atteindre sa fin. C'est-à-dire rechercher, maintenir la justice face aux droits du plus fort qu'il y avait dans l'état de nature et rechercher l'intérêt de chacun face au droit de possession qu'il y avait aussi dans l'état de nature et qui était source de conflit. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le contrat social. Alors, je vais donner très rapidement la structure que vous devriez connaître. Alors le livre, il y a quatre livres. Le livre 1, Rousseau veut fonder la société, cherche le fondement de la société. Le livre 2, c'est le pouvoir législatif du souverain. Le livre 3, le pouvoir exécutif du gouvernement. Et puis le livre 4 est plus disparate. Il regarde des points plus concrets, mais nous, on retiendra surtout le chapitre 8 sur la religion civile. Alors le plan de l'exposé va suivre à peu près le plan de Rousseau. On va essayer de prendre l'essentiel. Alors donc, nous allons essayer de voir le fondement de la société chez Rousseau. Alors, le chapitre 1 du livre 1 nous donne le sujet, l'orientation de tout ce livre. Alors, il commence par la phrase célèbre « L'homme est né libre et partout il est dans les fers. » Alors, il est contraint d'obéir à celui qui s'impose. Alors, comme on a vu, l'homme doit se révolter lorsqu'il le peut. Mais en fait, Rousseau affirme que l'ordre social est un droit sacré. Et donc, on ne va pas pouvoir y toucher comme ça. Il dit que c'est un droit sacré, mais que ce droit sacré n'est pas fondé sur la nature, mais il est purement conventionnel. Alors, c'est ce qui va démontrer dans le livre 1 que le fondement de la société est purement conventionnel. Alors, dans les chapitres 2 et 3, je passe rapidement, Rousseau montre que la politique... Alors, Rousseau, comment il procède? Il procède par élimination. La société ne peut pas être fondée sur une autorité, une obéissance à une autorité. Il regarde tout d'abord une obéissance fondée sur un rapport naturel. Alors, là, il parle de la famille. Il refuse que la famille soit le fondement de la société. De même aussi, il va refuser que des inégalités entre les hommes, c'est-à-dire que certains prendraient le pouvoir, et que d'autres obéiraient, ils refusent aussi cette soumission pour fonder la société. Dans le chapitre 3, Rousseau là parle aussi toujours au point de vue de la nature, il dit aussi que le droit du plus fort, donc qui existe dans l'état de nature, ne peut pas fonder la société, parce qu'il n'y a pas d'autorité naturelle. En fait, pour Rousseau, il y a une seule autorité qui peut être naturelle, c'est celle du père à l'égard de ses enfants. Mais dès que l'enfant est capable de se débrouiller tout seul pour pouvoir se conserver, parce que ce qui est principal chez Rousseau, c'est la conservation de soi-même, puis de son espèce, ben dès que l'enfant peut se libérer de ses parents, et ben le père n'a plus aucune autorité. Et après, il n'y a aucune autorité d'un homme sur un autre. Donc, Rousseau montre que le fondement de la société ne peut pas être la nature. Alors, il va prendre une première convention qui serait la servitude. C'est un peuple qui se ferait esclave d'un chef, d'un tyran. Ce serait un esclavage volontaire. Mais ceci est absurde, car se donner à un homme gratuitement est absurde, ce serait renoncer à sa liberté, à sa dignité d'homme, comme dit Rousseau. Alors, il faut essayer de toujours remonter à une première convention, et c'est le chapitre 5. Alors, les chapitres 5 et 6 du livre 1 sont centraux. C'est là où Rousseau va montrer que seul le contrat social peut être le véritable fondement de toute société. Alors, je vais vous lire un passage du livre 5. Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius, un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Alors, Grotius, c'est un contemporain de Hobbes et il défendait la monarchie absolue, pour simplement situer. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération publique. Avant donc d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple, car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre, est le vrai fondement de la société. Or, jusqu'à présent, Rousseau a regardé l'autorité. Maintenant, Rousseau ne va plus regarder l'autorité, il dit il faut d'abord regarder l'acte par lequel le peuple est un peuple. Donc, pour fonder la société, il ne faut pas rechercher au niveau de l'autorité, de celui qui dirige, mais au niveau du peuple. Alors, il faut bien distinguer deux actes. Il y a l'acte d'association, qui sera le contrat social, et puis l'acte par lequel un gouvernement est institué. Et c'est l'acte d'association, le contrat social, qui sera le fondement. Alors nous allons maintenant rentrer dans le chapitre 6, qui s'intitule le pacte social. Ce qui va rendre capable le contrat social, fondement de la société, c'est la deuxième étape de l'état de nature. Car dans le premier moment de l'état de nature, l'homme est encore incapable, incapable de s'unir à d'autres hommes, car sa raison n'est pas assez développée. Et d'autre part, il est libre et en paix, et il se suffit à lui-même, donc il n'a pas besoin d'autres hommes. Alors, ce qui va rendre nécessaire le pacte social, c'est l'état de guerre continuel entre particuliers, dans des sociétés encore sans loi et les sociétés ou les sociétés encore tyranniques. Alors, l'individu, par ses propres forces dans ces sociétés, ne peut plus se défendre contre les obstacles qui nuisent à sa conservation. Sa conservation, c'est sa principale préoccupation, c'est sa fin pour Rousseau. Et donc, le genre humain est destiné à périr. Alors, qu'est-ce qu'il veut trouver, Rousseau? Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Alors, par le pacte social, Rousseau va trouver une unité parfaite de la société. Et pour Rousseau, cette unité, disons, va être un peu sacrée. Nous pourrions peut-être voir ici une influence de Platon. Et nous verrons que l'unité va prendre une note très grande avec la religion civile, qui clôt le contrat social. Mais alors, pour que cette unité soit parfaite, il a fallu que chaque individu perde tous ses droits afin que tous soient égaux, qu'il n'y ait pas, disons, de jalousie entre les individus, ce qui ferait retomber dans un état tyrannique. Il ne s'agit pas de se donner. Attendez, mais là. J'ai sauté une page, c'est pour ça que je comprends ici. Excusez-moi. Non, voilà. Alors, sur ce passage-là. Alors, le pacte social. Il faut que je retrouve ça. Alors, je disais que les hommes, pour se conserver, vont être obligés de lutter contre la résistance des obstacles, et pour cela, ils ne peuvent qu'unir leurs forces pour pouvoir résister. Mais l'homme ne doit pas nuire à sa liberté en engageant toute sa force. Or, d'où donc le problème de Rousseau que je viens de lire. Alors, quel est le but? Le but, c'est de protéger l'individu contre toutes les attaques extérieures, c'est-à-dire l'usurpation des riches, le brigandage des pauvres. Mais il doit rester libre. Il doit y avoir aucune servitude les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que tous les membres doivent être libres et égaux. Il veut essayer de sauvegarder la liberté individuelle. Mais est-ce qu'il la sauvegardera? Est-ce que Rousseau va la sauvegarder? Ça, c'est plus difficile. Alors, quelles vont être les clauses de ce contrat? Alors, il nous les donne. Alors, il dit que les clauses se réduisent toutes à une seule, à savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Alors, le pacte social est donc une aliénation totale de l'individu. Mais ce n'est pas une aliénation à un homme, ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas une aliénation à un homme qui nous domine, qui nous tyrannise. Mais cette aliénation va nous donner une nouvelle liberté qui, disons, se substitue à la liberté de l'état de nature. Cette aliénation ne nous rend pas esclaves. Alors nous voyons chez Rousseau l'importance de l'égalité entre les membres pour qu'il n'y ait ni riche ni pauvre, ni maître ni esclave. Alors il continue. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'être. Et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car, plus rien à réclamer. Alors c'est là où il parle de l'unité. Donc par le pacte social, Rousseau trouve une unité parfaite. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, cette unité, donc je vais y revenir tout à l'heure, surtout dans la religion civile. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Donc il ne s'agit pas de se donner à une autorité, à une seule personne. Donc on peut dire que Rousseau refuse, j'ai l'impression, toute autorité. Il refuse d'obéir à qui que ce soit, mais il s'agit de se donner à tous les membres, plus précisément au tout de la communauté. On devient tous égaux en droit, non pas par nature, et comme chacun se donne au tout, on regagne tout ce qu'on a donné. Ça fait presque penser à une vie religieuse. L'unité du tout nous donne aussi plus de force pour lutter contre obstacles qui nuisent à notre conservation. Alors, Rousseau après nous donne ce qu'il y a d'essentiel dans le contrat social. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Alors, le pacte social n'est pas seulement une mise en commun de tous ses biens, ou encore de ses qualités, mais il est une mise en commun de toute sa personne, bref, de son individu même. Alors cet individu, il va obéir à la volonté générale, qui est la volonté de tous. Alors cette volonté générale va le rendre libre, car regarde l'intérêt de tous. La volonté générale ne peut être que l'intérêt de tous. Alors ça, nous le verrons plus précisément au livre 2. Au livre 2. Alors, il semble donc que l'individu n'existe plus et qu'il soit noyé dans le tout. Ce n'est plus un individu, mais ce n'est plus qu'une partie, un membre d'un corps politique, un membre d'une personne publique qui forme les membres de l'association. Or, le peuple, Rousseau appelle peuple l'ensemble des associés, mais en tant que soumis aux lois, ce peuple va s'appeler l'État. Et puis lorsqu'il est actif, le peuple va s'appeler le souverain. Donc le peuple souverain et l'État ne font qu'un. Alors, il va bien falloir distinguer le souverain, qui est le peuple, et le gouvernement, qui n'a aucun pouvoir souverain, qui n'a aucune autorité législative. Les trois autres chapitres du livre 1 sont des conséquences du pacte social. Alors je retiendrai simplement au chapitre 8 que par le pacte social ou le contrat social, l'homme passe de l'état de nature à l'état civil et donc il acquiert la justice, la moralité, le devoir, le droit. Bref, si on peut dire, il devient un être intelligent. Et même si par le contrat social il perd sa liberté naturelle qu'il avait dans l'état de nature, il va gagner la liberté civile. Qu'est-ce qui rend l'homme libre? C'est l'obéissance à la loi. C'est le dira dans le livre 2, sujet de la législation. Aussi, on peut retenir aussi dans le chapitre 9 qui parle de la propriété. Alors, par le contrat social, on va passer de la possession de fait. Dans l'état de nature, il y avait le droit de possession. Chacun voulait prendre ce qu'il voulait sur l'autre. Mais là, on va passer de la possession de fait à la propriété de droit. C'est-à-dire que l'individu, la personne, va garder ce qu'elle a, mais ça va devenir sa propriété. Si la possession était toujours menacée par le brigandage, la propriété ne le sera plus, elle va être protégée. Alors maintenant, nous allons passer au livre 2 qui parle de la législation. Alors, le pacte social, Rousseau dit qu'il donne la vie et l'existence au corps politique. C'est le fondement du corps politique. Et la législation va donner le mouvement et la volonté à son corps. Alors là, il ne faut pas rechercher une distinction aristotélicienne. Alors cependant, on va être amené à parler de la souveraineté et de la volonté générale, car la législation, souveraineté et volonté générale sont étroitement liées. Alors, les cinq premiers chapitres du livre 2 regardent le problème de la souveraineté qui est à la base de toute société politique. Et les autres chapitres vont être consacrés à la loi et au pouvoir législatif. Mais avant tout, avant de parler de la législation, il faut parler de la volonté générale. Alors, la volonté générale se distingue d'abord de la volonté particulière. La volonté particulière regarde l'intérêt personnel. Et cette volonté particulière va s'affronter constamment à la volonté générale. Quelle est la source de la volonté générale? La source, c'est le peuple. La volonté générale, c'est ce que tous désirent. Elle provient de tous les membres. Et il dit même que si un membre n'est pas d'accord avec la volonté générale, s'il a sa volonté particulière, les autres membres vont être obligés de le contraindre à obéir pour, afin de rendre cet individu libre. Le but de la volonté générale, c'est l'intérêt commun. On va chercher l'intérêt commun. Elle part de tous et doit s'appliquer à tous. Quel est l'intérêt commun? Ben, c'est le bien commun et qui est en premier lieu la commune conservation. On a vu que l'homme dans les sociétés, dans la société, ne pouvait plus, n'arrivait plus à se conserver, à lutter contre le milieu extérieur. Et donc, par le contrat social, les hommes s'unissent pour pouvoir se conserver. Et c'est seulement cette volonté générale qui va pouvoir diriger l'État vers sa fin, qui est la conservation, donc, de tous les membres, et le bien-être général. Alors, au chapitre 3 du livre 2, Rousseau précise que la volonté générale est toujours droite. Et dans le livre 4, il dira qu'elle est toujours constante, inaliénable et pure. Alors, si on peut dire, la volonté générale semble être infaillible. Même s'il peut y avoir quelques déviations à cause de la volonté particulière. À partir de là, nous pouvons préciser ce qu'est la souveraineté du peuple, parce que la souveraineté appartient au peuple. Alors, la souveraineté, c'est dans le chapitre 1 du livre 2, la souveraineté, c'est l'exercice de la volonté générale. Sans volonté générale, il ne peut pas y avoir d'acte de souveraineté. Et puisque la volonté générale est inaliénable, est toujours droite, et bien la souveraineté le sera aussi également. Au chapitre 4, il dit que, il définit la souveraineté comme le pouvoir absolu du corps politique sur chaque membre dirigé par la volonté générale. Maintenant, nous allons préciser ce qu'est la loi et puis la législation. Alors, la loi, il va toujours falloir la regarder par rapport à la volonté générale. C'est surtout dans le chapitre 6 que Rousseau parle de la loi. Le but de la loi, c'est la liberté et l'égalité de tous les membres. Au chapitre 16, il dit que le but de la législation, c'est la liberté et l'égalité. Et ça consiste en quoi? À modérer les biens des riches et l'avarice des pauvres. Donc la législation doit essayer de corriger la nature, enlever toutes les inégalités naturelles qu'il peut y avoir entre les hommes, pour essayer de donner une harmonie dans la société, pour essayer de trouver une unité, une égalité qui soit la plus parfaite possible. La loi, c'est l'acte de la volonté générale. C'est l'acte du peuple qui statue sur tout le peuple. Une loi est toujours générale. Donc l'auteur de la loi, c'est le peuple. Il va falloir la nécessité d'un législateur pour éclairer le peuple, parce que le peuple ne sait pas toujours quelle loi il faut faire. Alors il faut un législateur. Or, le but du législateur, ça sera d'amener la législation à sa perfection. Et c'est-à-dire que chaque citoyen soit dépendant d'autrui, qu'il ne puisse rien faire de lui-même. Donc ça, c'est des conséquences directes du pacte social. On ne peut rien faire sans l'autre. On est totalement dépendant de l'autre. Mais le législateur n'aura aucune autorité sur les hommes. Il n'aura qu'une autorité sur les lois. Bon, j'en dirai pas plus long sur la législation. Et je vais regarder maintenant rapidement le pouvoir exécutif du gouvernement. Alors, le souverain, qui est le peuple, c'est l'auteur des lois. Et c'est le peuple qui a le pouvoir législatif. Et le gouvernement, lui, va se charger simplement de l'exécution des lois. Il est totalement subordonné à la loi, et donc le souverain est subordonné au peuple. Alors que d'habitude, ce serait plutôt le souverain qui... C'est plutôt le peuple qui est subordonné au souverain. Alors, ça, c'est le livre 3 du contrat social. Alors, le plan du livre 3. Alors, dans les chapitres 1 et 2, Rousseau donne quelques notions sur le gouvernement, quelques notions générales. Puis, il passe à une classification des divers gouvernements. Puis Rousseau montre que chaque gouvernement n'est pas valable pour quoi qu'il y ait une forme de gouvernement suivant chaque société. Il n'y a pas une forme de gouvernement stricte, mais il faut qu'elle soit adaptée à chaque situation. Dans les chapitres 10 et 11, il regarde la dégénérescence et puis la mort du corps politique, du corps politique. Dans les chapitres 12, 13, 14, 15, 18, Rousseau va parler des usurpations du gouvernement qui va chercher à s'arroger le pouvoir législatif du souverain. Et comment parer à ces dangers, à ces usurpations du gouvernement. Alors dans le corps politique, on distingue la puissance législative qui appartient au souverain et la puissance exécutive pour faire exécuter les lois. Le gouvernement va jouer un rôle intermédiaire entre les sujets et le souverain. Il va être chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté. Si l'État existe par lui-même, le gouvernement ne peut exister sans le souverain. Et donc, il est totalement dépendant de la volonté générale. Alors là, on revoit ce que je vous avais dit, qu'il y avait deux actes. Alors, il y a le contrat social. Il y a le contrat social qui permet de fonder la société. Et puis là, il y a la volonté générale, il y a l'acte de la volonté générale qui élit un gouvernement. Mais cet acte, Rousseau dit que ce n'est pas un contrat. Le seul contrat qui peut exister, c'est le contrat social qui fonde la société. Alors, si le gouvernement est totalement dépendant, subordonné au peuple, la volonté du gouvernement doit être la volonté générale. Alors, au point de vue des termes, Rousseau appelle le prince le corps chargé de l'administration, et ce corps est composé de magistrats. Alors, comme tous les philosophes, ils parlent de la diversité des gouvernements. Alors, d'où provient cette diversité? Alors, dans le chapitre 2 du livre 3, Rousseau donne un principe. Plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Donc, il va falloir essayer de trouver un équilibre pour qu'à la fois le gouvernement soit fort et à la fois il reste droit, c'est-à-dire qu'il soit toujours docile à la volonté générale. Il faut en même temps qu'il soit fort pour pouvoir exécuter les lois. Ainsi, la cause de la division des gouvernements va être tout simplement le nombre des magistrats. Alors, Rousseau avait dit que dans le livre 2, que tout État régi par des lois s'appelait une république, et donc que tout gouvernement légitime était républicain. Alors, si on peut dire chez Rousseau, il y a une première division qui est le gouvernement républicain, la république, et puis l'anarchie, ou le despotisme, quoi, l'anarchie, disons. L'anarchie qui sera une dégénérescence, si on peut dire, de la République. Or, si bien qu'on obtient trois couples, alors il y aura trois républiques, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Alors, il dit bien que la monarchie, c'est bien une république. La monarchie, l'aristocratie aussi, et la démocratie aussi, c'est une république. Alors, la dégénérescence de la monarchie, c'est la tyrannie. Celle de l'aristocratie, c'est l'oligarchie. Donc là, il n'y a rien de changé depuis Aristote. Par contre, Aristote dit que. Donc la dégénérescence. Aristote, il voit la politéia à la place de la démocratie. Aristote dit. Bon, pour Aristote, il y a la politéia, et comme dégénérescence, il y a des démocraties. Mais Rousseau parle de démocratie, et puis la dégénérescence, c'est l'ochlocratie. Alors, comment ça s'écrit, lui? Je sais pas ce que j'écris. Il faudrait que je vois. Je vais essayer de vous donner quand même l'écriture exacte. Oui, ça dépend des. Non, parce qu'il y a des. Parce que ici, Rousseau est écrit aussi en vieux français. Parce que dans cette édition, il est écrit en vieux français. Il y a simplement donc ce dernier couple-là qui diffère d'Aristote. Mais j'ai lu un commentaire, alors on se demande si ça ne serait pas simplement une différence de termes, mais ça paraît quand même. Alors, d'où viennent ces trois dégénérescences-là? Bah, tout simplement, elles viennent du fait que le gouvernement cherche à usurper constamment la souveraineté, comme parallèlement la volonté particulière cherche, lutte constamment contre la volonté générale. Alors, tout simplement, je n'en dirai pas plus sur la souveraineté. Je passe maintenant au livre 4. Je regarderai simplement la religion civile. Est-ce que ça peut nous intéresser un peu plus? Alors, la religion civile doit permettre aux citoyens de lui faire aimer ses devoirs, de lui faire aimer toutes les lois, de lui faire aimer les vertus sociales, que la religion donc va maintenir en l'homme.